Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ben, je pense que oui, hein, on l'a déjà plus ou moins exprimé. Et ben, moi, je suis vraiment content d'être avec vous. Et bon, on va attendre que le PowerPoint nous rattrape. Je crois aussi que c'est peut-être le dernier dimanche l'équipe qui s'en va au Belize est avec nous. Donc, Timothée, Zosha et puis Myriam qui est en voyage, je crois. Mais je vais peut-être prendre un moment pour prier pour eux. Et puis, oui, Ryan, si tu peux, je ne sais pas si tu as mon PowerPoint, mais si tu peux le trouver, ça serait super. Prions pour cette équipe. Oui, Seigneur, merci ces trois. Ben, il y a David aussi et il y a d'autres qui partent de Montréal pour aller aider une communauté en Amérique centrale, au Belize, une communauté chrétienne à monter un programme de camp d'été à long terme, comme on a ici à la Corde, comme on a ici à Terra Nova. Eh bien, on va un peu amener les expertises et l'expérience pour aider ce village d'Arménia, ce village à implanter un camp d'été chrétien pour les enfants. Nous te demandons de fortifier nos missionnaires, on pense particulièrement à Tim, à Myriam et à Zosha, et à David aussi. Fortifie-les, aide-les dans leurs derniers préparatifs et prépare-les pour leurs expériences pas juste les expériences exaltantes, mais aussi les expériences d'exode de leur zone de confort et peut-être même de crise où ils vont voir ta main à l'œuvre dans leur vie et à travers eux. Alors, on te remet ce voyage, cette mission et nos missionnaires. Au nom de Christ, amen. Alors, moi aussi, je ne suis pas tout à fait prêt ici. Alors, voilà, celle-là. OK, parfait. Prendre son envol avec Dieu. Jacob à Bethel. On poursuit avec les patriarches, on poursuit avec notre ami Jacob. Mais je peux te dire que d'abord, je veux vous remercier pour vos prières pour Cheryl et moi. On était en vacances et ça nous a fait beaucoup de bien d'être partis pendant un peu plus que 2 semaines. Mais ça a comme chevauché 3 dimanches. Alors, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Et on a vraiment senti la bénédiction de Dieu et on a eu du beau temps, de la belle température, ce qui n'est pas automatique dans une place comme Terre-Neuve. On a eu du beau temps et ça nous a permis de nous, entre autres, de nous promener beaucoup dans la nature. Et on avait besoin de ça. C'est un ressourcement. Et j'aimerais vous parler d'un oiseau qu'on a découvert, le macareux. C'est un oiseau maritime des pays du Nord, le macareux. Je ne sais pas si j'ai une photo ici, il me semble que oui. Voilà, le macareux. On pourrait dire que ça ressemble à un pingouin, mais le macareux, il est capable de voler. Par contre, comme le pingouin, il a une masse corporelle considérable. Et à Terre-Neuve et au Labrador, le macareux, il habite sur les côtes et sur les îles. Et quand il vole, il s'en va vers l'océan. Je pense que c'est un pêcheur, cet oiseau-là. Il mange du poisson. Et ce que j'ai vu, parce que je les ai observés à la loupe, cette photo-là, ce n'est pas moi qui l'ai prise. Je l'ai prise à l'Internet. Je les ai plutôt vus de loin, mais j'ai remarqué que quand un macareux quand cet oiseau-là a besoin de s'envoler, eh bien, il va courir sur le rocher avec ses petites pattes en battant des ailes le plus fort qu'il peut jusqu'à temps qu'il arrive à l'extrémité, jusqu'à temps qu'il arrive à la falaise. Et là, il s'élance et il plonge parce qu'il est lourd. On le voit descendre, mais il bat des ailes le plus fort qu'il peut, puis il fait une genre de courbe et il va raser l'eau, puis là, il va remonter. Mais une fois qu'il est dans les airs, il est capable de voler loin et bien. Il faut qu'il batte des ailes fort. Maintenant, il y a un moment critique dans la courbe où il est proche de l'eau. Et il faut qu'il batte fort des ailes pour remonter. Et les jeunes macareux qui apprennent à voler vont souvent se retrouver dans l'eau. Donc, leur courbe, c'est comme plouf, malheureusement pour eux. Puis, et ils savent nager, c'est comme un petit peu comme des canards, ils peuvent nager, mais ils ne peuvent pas s'envoler depuis l'eau. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire, les jeunes macareux qui se retrouvent dans l'eau? Il faut qu'ils nagent jusqu'à la falaise et puis qu'ils remontent. Ils remontent à pied la falaise ou la côte jusqu'à temps qu'ils remontent où est-ce qu'ils étaient. Puis, il faut qu'ils recommencent leur course jusqu'à temps que finalement, ils arrivent à s'envoler. Donc, ce n'est pas facile, cet envol. Et j'ai trouvé que l'envol du macareux, c'est une belle image, pour moi, de la vie chrétienne. Et moi, dans toute ma vie chrétienne, j'ai souvent, peut-être vous êtes comme moi, j'ai admiré les croyants plus avancés que moi, plus matures à mes yeux que moi. Je me disais, oh, wow, ils volent comme des aigles et ça m'inspire. J'aimerais ça, aller voler avec eux, très haut dans le ciel, avec facilité. Mais, en fait, je suis un macareux, moi. Dieu doit me faire passer par le chemin de cet oiseau qui, étape par étape, doit apprendre à voler en dépendant sur Dieu et pas sur moi-même. Et des fois, il faut s'y reprendre. Des fois, je me retrouve dans l'eau. Mais ce n'est pas la fin du monde. Il faut juste recommencer. Puis Dieu est avec toi et avec moi. Il y a un processus de maturation. C'est ce qu'on va voir aussi dans la vie de notre ami Jacob. Jacob, quand on a commencé à voir son histoire, un des deux fils d'Isaac et Rebecca, et la dernière fois qu'on s'en était parlé, il y a quelques semaines, ben Jacob a dû fuir le foyer familial. Pourquoi? Parce que son frère voulait le tuer. Il avait tellement fâché son frère que son frère avait un plan de l'assassiner. C'est terrible, la Bible, des fois, hein, mais c'est ça la vraie vie de nos patriarches. Et on va lire le texte, mais d'abord, je vous invite à nouveau à prier. Oui, Seigneur Dieu, merci pour le macareux et merci pour les personnages comme Jacob que tu as pris. C'est des personnes qui, eux aussi, ont besoin d'apprendre à voler dans la foi, à cheminer avec toi et à rentrer dans ton plan qui est toujours merveilleux, mais il y a de la difficulté et on va... Merci pour ce texte qui va nous montrer un peu cela dans le cheminement de Jacob. Nous te demandons d'ouvrir nos oreilles spirituelles au nom de Christ. Amen. On va lire le texte. Ceux qui ont leur Bible, c'est Genèse 28, premier livre de la Bible, à partir du verset 10. Sinon, je le mets aussi à l'écran. Jacob partit de Beer-Sheba et prit la direction de Haran. En fait, c'est marqué Charan, mais c'est parce que c'est la lettre hébreu que ça se prononce R. Mais le problème, je ne veux pas faire de la pluie dans les premiers bancs, alors je vais dire plutôt Haran. Et alors, Il part pour Haran, arrivé à un certain endroit. Il y passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son oreiller et se coucha à cet endroit. Il fit un rêve. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. » Jacob se réveilla le lendemain et se dit, « C'est certain, l'Éternel est dans cet endroit, et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Cet endroit est redoutable, c'est ici que se trouve la maison de Dieu, c'est ici que se trouve la porte du ciel. » Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son oreiller. Il en fit un monument et versa de l'huile sur son sommet. Il appela cet endroit Bethel. Bethel signifie en hébreu « maison de Dieu ». Mais la ville s'appelait autrefois, auparavant, Luz. Et Jacob fit ce vœu. « Si Dieu est avec moi et me garde pendant mon voyage, s'il me donne du pain à manger et des habits à mettre, si je reviens en paix chez mon père, et si l'Éternel sera mon Dieu, alors cette pierre dont j'ai fait un monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la ville de... je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Amen. Alors, voici un peu le résumé de ce que je vais dire. Retenez ce résumé de la leçon d'aujourd'hui. À travers son appel en voyage avec lui et par les moments de crise prévus par lui, Dieu nous transforme en serviteurs et en servantes matures. Je vais relire. À travers son appel en voyage avec lui, par les moments de crise prévus par lui, Dieu me transforme, te transforme en serviteur et servante mature. Alors, Zosha, Timothée, vous êtes appelés en voyage. C'est un petit voyage, mais vous allez très loin. Il y aura peut-être des difficultés, mais n'oubliez pas que Dieu se sert de ces moments pour agir en vous. Mais c'est le cas pour chacun de nous. Les voyages ne sont pas toujours des longues distances, ça peut être des changements imprévus dans nos vies là où vous êtes. J'aimerais montrer comment on peut voir Dieu accomplir ceci déjà dans le jeune Jacob. Et ça, c'est une leçon minant, la parole de Dieu pour chacun de nous. Comme Jacob, nous sommes appelés à servir, à adorer Dieu, à prendre notre place dans le plan de Dieu, mais toujours avec une plus grande maturité. On voit que Dieu fait trois choses ici dans la vie de Jacob. Il l'appelle en voyage, il le fait passer par une crise, puis il le conduit vers une maturité plus grande. Alors, regardons ces trois choses que Dieu fait d'un peu plus près. Premièrement, Dieu appelle Jacob en voyage. On a vu dans l'histoire que d'abord, Jacob était choisi d'avance par Dieu, même avant qu'il soit né dans le ventre de sa mère. Mais même avant cela, Dieu avait prévu, je vais faire de grandes choses avec cet enfant qui va devenir un homme. Il va être le patriarche de mon peuple. Il est devenu le fils de la promesse et par cet homme qu'on voit par l'histoire comment il est imparfait, bien, Dieu va établir à travers lui et sa famille un peuple témoin. C'est assez extraordinaire. Puis c'est encourageant pour chacun de nous parce qu'on est imparfait, nous autres aussi, mais Dieu nous a appelés, nous autres aussi. On voit que la jeunesse de Jacob, c'est pas très prometteur. Il est dans un foyer, un beau foyer, mais il se restreint à la vie familiale. Il reste, c'est comme encabané dans les tentes. Il sort pas beaucoup. Et c'est l'enfant chouchou de sa mère. Puis je sais pas, mais ça peut déranger un peu. Ça dérange ceux qui sont pas chouchous en général. Et il profite de son état de chouchou. Et pour faire avancer ses intérêts, on l'a vu, il manipule les situations, il manipule les personnes. Il manipule son grand frère et son père. Il est dans sa zone de confort, puis il contrôle sa zone de confort. Mais typiquement, le Dieu de Jacob, qui est aussi le seul Dieu et notre Dieu, bien, Dieu a cette habitude. Il nous appelle à sortir de notre zone de confort. C'est ce qu'il fait avec Jacob. Et il nous appelle dans des voyages vers l'inconnu. On entend ça souvent dans les témoignages, des moments de changement dans la vie des gens. J'ai senti que Dieu me demandait de faire telle chose, puis je me suis dit non. Jamais je ferais ça, c'est pas dans ma personnalité. Mais l'Esprit Saint communique à la personne, non, c'est moi qui te demande d'aller dans ce territoire nouveau. C'est ce qui se passe avec Jacob ici. Il part vers l'inconnu, mais qui est connu de Dieu. On retrouve ici le pauvre Jacob. Dans le voyage qu'on a lu, il est tout seul. Peut-être sur un âne, un chameau, possiblement, je ne sais pas. Un cheval à la limite. Et sa première nuit sur la route, il est surpris par l'obscurité. Il est obligé de dormir dehors, dans la nature. C'est un lieu clairement aride, rocailleux, désert, au point où il doit utiliser comme oreiller une pierre. Et moi, je me suis déjà plaint dans différentes situations où j'ai dû coucher à l'extérieur de ma maison. Je me suis déjà plaint intérieurement que mon oreiller était trop dur ou trop mince. Mais là, je pense que je vais arrêter de me plaindre parce que jamais de ma vie, j'ai été forcé à utiliser une pierre comme oreiller. Franchement, ça, c'est pas facile. En plus, on apprend qu'il y avait un grand village cananéen pas loin qui s'appelait Luz, et les archéologues ont fait des recherches et ils ont vu que c'était pas rien du tout, c'était quand même un village important. Mais c'est comme s'il était même pas là, le village, parce que pour Jacob, je pense qu'il s'est tenu loin du voyage, il avait peut-être peur de ces gens-là, et c'est une situation de voyage où, bien qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, il est profondément seul. Et il est laissé à lui-même. Solitude totale dans l'obscurité. Est-ce que Dieu t'appelle en voyage? Est-ce que Dieu t'a appelé en voyage dernièrement? Peut-être faire une expérience où tu as dû quitter ta zone de confort. Mais peut-être tu sens à l'intérieur de toi que Dieu t'appelle à servir différemment dans ce nouvel endroit. Et toi, tu n'aurais jamais imaginé aller là. Et cette histoire nous montre que, comme Jacob, il faut apprendre à dire oui à Dieu. Dans ces appels-là. C'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est comme ça que Dieu nous apprend que c'est lui, Dieu, c'est pas moi qui ai Dieu. Je pense que ça, c'est ça, le grand pas de la vie chrétienne et de la repentance, c'est Dieu existe, puis c'est pas moi. C'est pas moi le Dieu de ma vie, c'est Dieu qui est le Dieu de ma vie, donc c'est lui qui décide. Moi, je me souviens d'une situation de voyage comme ça. Vous me direz, c'est pas très loin, mais moi, j'ai grandi à Gatineau, dans le même quartier, en fait, que mon ami Vincent, ici. Donc, il peut témoigner que oui, j'ai grandi à Gatineau. Et en 1989, j'ai eu un appel pour venir travailler pour une mission ici dans le centre-ville de Montréal qui s'appelle Direction chrétienne. Et moi aussi, j'étais un peu comme Jacob, très attaché à ma famille. Et mon nouveau patron, un missionnaire, me parlait au téléphone et me dit, « Marc, oui, viens! » Et puis, en plus, je t'ai trouvé une sous-location à Côte-des-Neiges. Ça va être bon pour toi, c'est un et demi, un petit appart. Quelqu'un a besoin de quelqu'un pour le reprendre parce qu'elle doit déménager ailleurs, la dame qui habite là. Et puis, moi, je me souviens, j'y posais à Glenn, le patron, une tonne de questions au téléphone par rapport à cet appart inconnu que je n'avais jamais vu. À un moment donné, Glenn, il m'arrête et dit, « Marc, calme-toi, arrête de t'inquiéter, Dieu est en contrôle. » Et c'est comme, ça m'avait fait un choc, mais je me suis dit, oh, j'avais besoin d'entendre ça. C'est un peu comme, gifle-moi puis pour que j'arrête de paniquer. Merci Glenn de me rappeler ce qui est vrai, et c'était vrai, parce que j'ai déménagé à Montréal, j'ai commencé cet emploi avec cette mission, Et ce petit un et demi, oui, il n'y avait pas de meubles dedans, mais le Seigneur a pourvu des meubles. Et c'était le début d'une grande aventure avec Dieu qui continue jusqu'à aujourd'hui. Voilà, je n'ai jamais quitté Montréal, je suis encore là et je suis avec vous ce matin. Alors, on voit que Dieu appelle Jacob en voyage et il a appelé chacun de nous en voyage. Et c'est le voyage de la foi, le voyage du service de Christ. Deuxièmement, Dieu fait passer Jacob par une crise. Donc, le voyage de Jacob, il fuit son frère. En fait, il va en profiter aussi pour trouver une épouse. L'histoire, on va voir, il va non seulement en trouver une, mais il va en trouver deux. On va expliquer ça plus tard. Mais là, c'est un très long voyage pour se rendre à Haran. Mais la seule chose qui est racontée du voyage, c'est cette nuit à Bethel ou à Luz, mais qui va devenir maison de Dieu, Bethel, dans le cœur de Jacob. Pourquoi est-ce que cette nuit à Luz est si importante? On voit que Jacob y vit une crise. Il est pris par l'obscurité. Il doit s'arrêter pour dormir dans un endroit pas commode. C'est pas l'endroit idéal. Et il avait peur, il se sentait seul. Et il se couche dans l'inconfort. C'est un moment de trouble émotionnel. Et on remarque que c'est à ce moment-là que Dieu vient lui parler. Il réussit à s'endormir, puis là, il a un rêve. Mais le rêve, c'est un rêve où Dieu va lui parler. Et il va s'en souvenir toute sa vie. Et ça va rentrer dans la Bible, ce rêve-là. Et c'est vrai que toi et moi, quand on est déstabilisé émotionnellement, quand ça va mal, on est souvent plus réceptif à entendre ce que Dieu a à nous dire. Et puis, ça, des fois, c'est parfois différent de ce qu'on pense. Hein? Parce que la Bible nous dit aussi, et c'est Dieu qui parle, dans cette Bible, mes pensées ne sont pas vos pensées. Alors, dans ces moments de crise, c'est là que Dieu peut nous parler. Et on voit qu'il reçoit ce rêve. Alors, voilà un peu cette image. Ce n'est pas très clair, mais on voit Jacob, il dort sur des pierres. Et puis, il a cette vision. Le mot traduit par échelle peut aussi être traduit par escalier. On n'est pas sûr si ce qu'il a vu, c'est une échelle ou un escalier. Mais les temples païens de cette région du monde avaient comme de très, très hauts escaliers. C'était comme des pyramides avec des escaliers qui montaient très haut. Et c'était comme le symbole que le temple, c'est comme la place où est-ce que c'est le lien entre la terre et puis le ciel, où sont les divinités. Alors, c'est peut-être une échelle, mais c'est peut-être un escalier, peu importe. Mais ce qui est sûr, c'est que Jacob a vu des messagers de Dieu monter et descendre. Oui?
C'est pas un ziggourat, ça?
Exactement, oui. Ce dont je parle, les temples en pyramide de cette période-là, on appelle ça des ziggourats, exactement. Je pense que c'est la langue sumérienne ou quelque chose comme ça. Mais bref, qu'est-ce que Dieu dit à Jacob? Plusieurs choses dans ce rêve. Un, je vais être ton Dieu, je vais te conduire, je vais t'occuper de tes besoins. Je vais m'occuper de tes besoins. Deuxième point, la grande promesse que j'ai faite à ton grand-père, Abraham, puis à ton père Isaac, maintenant elle passe à toi. C'est toi qui reçois cette promesse. Un grand peuple, un grand territoire va t'être donné. Et toutes les nations de la terre vont se bénir mutuellement en se référant à toi. Troisièmement, tu vas accomplir de grandes choses dans mon plan. Mais quatrièmement aussi, juste par l'image qu'il a vue de ces anges, eh bien, Jacob a eu une nouvelle perspective sur la place où il était et sa propre vie. Que tout autour de lui, Dieu, le Saint-Esprit, les anges de Dieu, ils sont présents et actifs dans l'invisible. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux quand on est dans une situation où on se sent faible et abandonné à nos propres ressources. Peut-être on se sent abandonné de Dieu. Et puis tout d'un coup, le Saint-Esprit nous dit, je suis là. Mes anges sont tout autour de toi. Inquiète-toi pas. Je suis en train d'agir. Fais-moi confiance. Et sois à mon écoute. C'est un peu ça que Jacob a vécu. Et il se réveille le lendemain. Mais on va en parler tantôt. Mais cette idée des anges, on va se dire, mais ça ne nous intéresse pas. Mais oui, ça nous intéresse. Les chrétiens d'aujourd'hui, n'oubliez pas, on a le Saint-Esprit, mais autour de nous aussi, il y a dans l'invisible des anges. Le Nouveau Testament le répète et le dit dans Hébreux 1, 14, les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut? Alors, n'oubliez pas, si vous êtes un enfant de Dieu, il en a beaucoup des anges à son service, il en envoie pour t'aider. Tu ne les vois pas, mais ils sont là. Je veux t'encourager ce matin, surtout si tu a passé par des moments de crise dans ton voyage. Et je pense notamment aux nombreux qui ont fait le long voyage d'un autre pays vers le Canada. Vous êtes nombreux et vous avez peut-être vécu des crises dans votre voyage. Et ça peut être aussi des crises ici à Montréal et peut-être même des traumatismes. Il y en a qui ont vécu des traumatismes, des blessures dans le chemin de voyage. Il y en a qui ont vécu traumatisme, même cette semaine, ici, dans la ville de Montréal. J'aimerais simplement te dire, c'est pas parce que tu as vécu des choses dures que Dieu n'est pas là, que Dieu n'est pas en train de bâtir quelque chose dans ta vie, pour ta vie et pour ta famille et à travers toi. Pense à Jacob. Jacob qui vit cette crise de solitude dans cet endroit rocailleux. Et Dieu lui dit, je suis là. Je suis en train de préparer de quoi de gros. Amen! Amen. Soyez encouragés ce matin. Oui, Seigneur, moi, je veux te prier tout de suite là, pour chacun qui peut-être se remémore d'un moment dur, un moment de blessure, peut-être un moment où, en voyage, c'était tellement dur que je ne veux même plus y penser. Seigneur, je prie que tu amènes l'occasion d'en parler, de prier là-dessus, de guérir. Je prie que tu amènes pour chacun ce réconfort, cette certitude ce matin que tu vas produire du bien à travers tout ce qui s'est passé dans ce voyage. Parce que tu as appelé chacune et chacun ici à Montréal pour faire partie de ton plan. Et c'est un bon plan. C'est un plan pour le salut et le bonheur du monde. Et donc, je prie au nom de Christ. Amen.
Amen. Amen.
Le message n'est pas fini. C'est juste que l'Esprit m'a mis à cœur de prier. Mais on continue avec le troisième point maintenant. On a vu que Dieu a appelé Jacob en voyage. Dieu lui a fait passer par une crise. Et finalement, Dieu conduit Jacob vers la maturité spirituelle. On voit que Jacob, chez ses parents, il n'est pas mature. Mais on voit que Jacob, quand il se réveille le lendemain du rêve, quand il est à Luz, il s'exprime comme quelqu'un qui vit une repentance, hein? Quelqu'un qui change de perspective. On paraphrase un peu ce qu'il dit dans les versets 16, je reprends ça dans les mots d'aujourd'hui, il dit « Wow! J'étais vraiment dans les patates. Je pensais que j'étais tout seul avec mes problèmes. Maintenant, je comprends que Dieu est présent dans cet endroit. Dieu y est là dans ma vie, puis même il envoie des anges. Sa puissance est là. Maintenant, ce n'est pas la crainte des circonstances. C'est la crainte de Dieu que je veux qu'il m'habite. Pas la crainte de mes défis, mais cette crainte de Dieu, pas la peur de Dieu, mais cette crainte de Dieu, parce que je suis dans l'attente de qu'est-ce qu'il est en train de faire pour utiliser les difficultés à sa gloire. C'est lui que je veux servir, pas juste mes propres besoins. On peut imaginer Jacob en train de se repentir comme ça. Et ce qui est le fun, c'est que dans son histoire de vie, on voit Jacob à partir de cet épisode, quand on continue à lire, et on va en parler un peu quand même, et je pense même la semaine prochaine, on va en parler un peu plus. Il devient plus adulte, plus humble, plus sensible à Dieu, moins égocentrique. Il apprend à marcher par la foi et il devient un gagnant, mais par Dieu, pas par ses propres stratégies humaines. Puis même, on va voir son oncle, Laban, il va loger, c'est son oncle. Puis son oncle, il est croche, lui aussi. Il va utiliser des stratégies croche contre Jacob. Mais on voit que Jacob, il va réagir par la foi. Et il est en train de maturer parce que Dieu lui a fait vivre cette expérience. C'est un bel exemple pour nous. Et une autre chose que Jacob devient, non seulement sa perspective change, mais on peut dire son action change. Il s'engage à devenir un adorateur. Ça, on a lu ça dans les paroles qu'il dit en se réveillant. Premièrement, il donne un nom à l'endroit. L'endroit, vous vous souvenez du nom? On le dit. Bethel, maison de Dieu. Et on connaît une église Bethel, hein? Mylène et sa famille viennent de l'église Bethel, une famille, une église sœur. Il y a aussi une école biblique. Bethel, c'est quelque chose qui est resté dans le souvenir collectif de la famille de Dieu. Ça a commencé avec Jacob. Il donne un nom à cet endroit souvenir, cet endroit d'adoration, cet endroit où il a rencontré Dieu. Un désert avec comme lit, comme la poussière, puis les oreillers, c'est quoi? C'est des roches. Il appelle ça Bethel et ça va être un endroit où il va retourner. Et même tout Israël va retourner là pour adorer Dieu. C'est quand même quelque chose. As-tu un Bethel ou des Bethels dans ta vie? Est-ce qu'il y a des moments ou des endroits où tu dis, là, Dieu, il s'est révélé à moi, je vais m'en souvenir et je vais dire à Dieu régulièrement, merci Dieu pour mon Bethel. J'ai pensé amener mon journal où j'écris mes prières du matin, j'ai oublié de l'apporter, mais là, des fois, je vais écrire des souvenirs et ça me permet de les relire. Et comme ça, même 5-6 ans plus tard, je vais relire quelque chose que j'ai écrit. Et merci, parce qu'à cette date, il y a 5 ans, j'ai eu un moment Bethel. Dieu m'a fait comprendre quelque chose. Ça peut être un endroit aussi. Moi, je peux vous dire que le chalet des Tracis, là où il va y avoir la retraite des jeunes, c'est un peu un Bethel pour moi, parce que j'ai été à plusieurs retraites là, et j'associe ça avec l'action de Dieu. Maintenant, c'est vrai que vous me direz, Dieu, il est partout, puis Dieu, il nous parle en tout temps. C'est vrai, mais suivons l'exemple de Jacob et identifions les Bethel pour ensuite s'en souvenir et que ça devienne un lieu, un endroit, une habitude d'adoration. Deuxièmement, Jacob prend un engagement de vie. Je vais faire de ce lieu un endroit de prière et je vais aussi inviter d'autres à venir. Je l'ai un peu déjà dit. Bethel va devenir un lieu où d'autres vont venir. Troisièmement, au niveau de son caractère à Jacob, il y a quelque chose de gros qui se passe. À la fin, il va dire, je vais donner la dîme de tout. Le nom de Jacob, ça veut dire littéralement celui qui saisit, celui qui prend. Et on voit sa jeunesse, on voit qu'il est tout le temps en train de prendre. Maintenant, dit Jacob, je reconnais que tout ce que j'ai me vient de l'Éternel. Je veux devenir un redonneur envers Dieu. Comprenez-vous la vie de l'adorateur, de l'adoratrice? Quelqu'un qui redonne à Dieu. Quelqu'un qui redonne généreusement de lui-même à Dieu, dans sa maison et ailleurs. On parle de la dîme. Ça, c'est le principe de l'Ancien Monde, le 10%. Et dans le Nouveau Testament, ça peut être même au-delà. Donc, chacun décide pour soi-même combien donner, quand. Je peux vous dire, c'est pas pour me vanter, c'est pas pour vanter mon couple, mais on était en vacances Cheryl qui lisait ses courriels sur son téléphone. Et puis, elle dit, « Oh! On vient de recevoir une subvention du gouvernement pour une nouvelle fournaise électrique, parce qu'on fait, on doit tous faire une transition vers les énergies renouvelables. Hein. » Et première chose qu'elle dit, « Hey! On devrait faire une dîme sur le montant. » Elle me dit ça de même. « Marc, qu'est-ce que tu en penses? On en redonne une partie à Dieu. » Et, bon, finalement, on a dit oui, tous les deux. Mais là, moi, je devrais pas vanter ça, mais c'est pour dire le réflexe de ma femme de dire, « Wow, quel cadeau on devrait redonner à Dieu. » Et donc, j'ai trouvé ça vraiment bien de sa part. Et je crois que nous devons tous apprendre à devenir de ces redonneurs à Dieu, et de plus en plus, de plus en plus. On a parlé des dîmes de cette partie qui vient à l'Église aussi, et ça en fait partie, mais c'est toute notre vie. Et on le voit déjà en Jacob. Je veux arrêter de prendre. Je veux apprendre à redonner. Alors, on va conclure. Ce matin, on a parlé du macareux, cet oiseau à Terre-Neuve qui apprend à voler. Et on est en train d'apprendre à voler, les amis. Et on est en train d'apprendre à partir de Jacob, qui est un peu un macareux, qui est en train d'apprendre à marcher avec Dieu. Et l'idée de base, à travers l'appel de Dieu en voyage, et à travers les moments de crise que Dieu plante dans notre voyage, Dieu nous transforme en serviteurs et en servantes matures. Parce qu'il nous parle. Parce qu'il nous apprend la patience. J'espère que ça vous encourage avec vos défis. Dieu t'aime. Dieu travaille dans ta vie, même dans les crises. Puis c'est toujours pour le bien. L'amour de Dieu est tellement bon, tellement grand, tellement au-delà de ce qu'on peut imaginer, parce que son amour est beaucoup plus bon que le nôtre. Alors ce matin, soyons des adorateurs comme Jacob. On a le même Dieu que lui. Il nous appelle et on va célébrer le repas du Seigneur. Ce Dieu nous invite à la table ensemble. Amen. Donc, on est un peu comme dans un Bethel ici. On revient à la corde où l'oasis se réunit. Et les premiers dimanches du mois, c'est autour de la table. Et c'est Jésus, Dieu fait homme, Dieu ressuscité, qui nous invite à manger avec lui. Et saviez-vous que Jésus avait dit une fois à un de ses disciples, parce qu'il avait fait capoter Nathanaël. Pourquoi? Parce qu'il lui a dit, « Bien, hier, tu étais sous le figuier. » Puis c'est comme, « Comment tu m'as vu sous le figuier? » Et Jésus lui dit, « Bien, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois maintenant? Tu verras de plus grandes choses encore que celles-ci. » Et Jésus ajouta, « en vérité, je vous le dis, vous verrez désormais, le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Et le Fils de l'homme, c'est Jésus. Autrement dit, Jésus est le Bethel du peuple chrétien. Jésus, c'est celui qui vient dans nos vies, qui nous révèle Dieu, qui nous appelle en voyage. Et puis, c'est vers lui qu'on revient à chaque jour, à chaque mois, à travers le repas du Seigneur et bien au-delà encore, c'est toujours à lui qu'on vient pour vivre ce retour à Dieu. Amen. Amen. Alors, je vous invite à prier avec moi maintenant, parce qu'on va, s'approcher de la table. Prions. Seigneur éternel, merci pour le Macareux. Merci pour Jacob. Merci pour Jésus, mort et ressuscité pour nous, pour moi. Mort à ma place. Mais à travers tout ça, merci parce que tu es le Dieu qui me parle et qui me change et qui amène le bonheur dans ma vie. Donne-nous cette patience du Macareux. Donne-nous cette ouverture d'esprit de Jacob. Et donne-nous la foi aussi que ce que tu as pour moi dans ma nouvelle vie au Canada, ou en tout cas, peu importe si je suis immigrant ou pas, mais cette nouvelle vie que j'ai en Christ, eh bien, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose de divin si j'apprends à la vivre dans l'humilité et dans la foi. Alors, on veut te remettre ce moment où on vient vers toi et avec toi à la table. Au nom de Christ. Amen.